écoutez RFI, il est 7h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Dakar.
RFI Matin.
À la une de votre journal Nemo en Pice, une partie de la dette sénégalaise cachée entre 2019 et 2024.
On parle de 7 milliards de dollars, un chiffre confirmé par le Fonds monétaire international dont une délégation se trouve à Dakar et qui vient appuyer la conclusion du rapport de la Cour des comptes. Édouard Gemayel, qui mène cette délégation, est notre invité Afrique ce matin. Le président de la transition burkinabé demande aux banques de libérer un quart de l'argent placé par les sociétés d'État, des ressources dont ont besoin les autorités et les habitants, selon Ibrahim Traoré. Le Mali et les craintes des proches de l'ancienne ministre Boiré Fili Sissoko sur son état de santé, elle qui est toujours emprisonnée. La Côte d'Ivoire et l'ouverture du procès de l'ancien aide de camp de Guillaume Soro. Et puis un mot de football en fin de journal. Les champions d'Afrique ivoiriens victorieux sur le plus petit des scores hier face à la Gambie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.
Au Sénégal, le FMI confirme le rapport de la Cour des comptes.
L'institution avait, il y a quelques semaines, relevé de larges irrégularités quant à la gestion des finances publiques sur la période allant de 2019 à 2024, soit sous l'ancien président Macky Sall. Une délégation du Fonds monétaire international est en déplacement dans la capitale sénégalaise depuis une semaine pour s'entretenir avec les autorités. Et alors que le programme d'aide du FMI au pays est toujours suspendu. À Dakar, la correspondance de Léa Lisa.
Il y a eu une décision très consciente, je cite, de sous-estimer la dette pendant les 5 dernières années, affirme Mehdi Gemayel à la tête de la délégation du FMI. Un montant délibérément caché qui s'élève à 7 milliards de dollars environ et qui correspond à la différence entre les deux estimations de la dette publique, celle déclarée sous l'administration Macky Sall à plus de 70% du PIB et celle calculée par la Cour des comptes qui se situe à près de 100% du produit intérieur brut. Dans tous les cas de figure, c'est un montant très élevé qui creuse le déficit public du Sénégal et qui a provoqué la suspension du prêt du Fonds monétaire international. Ce prêt ne pourra reprendre qu'une fois que les autorités sénégalaises auront identifié quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette. Il faut également que des mesures correctives soient adoptées, assure le FMI, pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. Le FMI devra ensuite décider dans les semaines qui viennent si le Sénégal décroche une dérogation ou si l'institution internationale demande à Dakar de rembourser ce qui a déjà été prêté par le FMI avant de reprendre un nouveau programme. Léa Lisa Westerhoff, Dakar. RFI.
Léa Lisa Westerhoff qui s'est directement entretenue avec Édouard Gemayel, le chef de mission du FMI pour le Sénégal. Il est notre invité ce matin. Entretien à retrouver juste après ce journal dans un quart d'heure. Et puis vous nous dites dans Appel sur l'actualité ce que vous pensez de la première année au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Rendez-vous avec Juan Gomez à partir de 9h10, heure de Paris.
Vos questions, vos réactions au 33 9 693 693 70. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré maintient la pression sur le secteur bancaire.
La semaine dernière, le président de transition a demandé aux banques de débloquer le quart de l'argent placé par les sociétés d'État. Les habitants, mais aussi les autorités en ont besoin, dit-il, mais de leur côté, Charlotte Cossé, les banques semblent réticentes.
La dette intérieure du pays dépassait les 7 milliards d'euros fin 2024, en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Afin d'en rembourser une partie, le capitaine Ibrahim Traoré veut donc récupérer 25% des placements des sociétés d'État. Sans préciser le montant que cela représente.
On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever, comme on aime le dire.
Selon le principe, ces placements doivent être conservés à la banque pour une certaine durée de temps afin de pouvoir toucher les intérêts, ce qui n'empêche pas l'État de rompre le contrat.
Au pire, il y aura peut-être des pénalités.
Elfried Didéa est banquier de profession. Il a travaillé à de hautes fonctions dans plusieurs établissements bancaires panafricains.
L'environnement économique peut faire que les institutions bancaires peuvent se retrouver un peu à court de liquidité, donc en difficulté pour restituer ces sommes-là. Maintenant, il faudrait une bonne volonté que de part et d'autre, la liquidité soit mise à la disposition de l'État pour faire face à ses obligations ou ses nouvelles priorités sans mettre à mal le secteur bancaire.
Si la croissance est à la hausse, l'inflation a cependant grimpé de 3 points et les besoins de dépenses publiques restent importants. Le président de la transition a donné jusqu'à fin mars aux banques pour libérer ses ressources.
Le Burkina Faso encore où deux journalistes journalistes ont été enlevés hier, Gezouma Sanogo et Boukari Ouaba, respectivement président et vice-président de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina. Vendredi dernier, lors d'un congrès extraordinaire, ils avaient évoqué des atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse jamais égalées depuis l'arrivée au pouvoir des militaires en septembre 2022. Le président de l'association a dénoncé une totale mainmise du pouvoir sur les médias publics, dont la RTB et l'AIJ, l'agence d'information devenue selon lui les deux outils principaux de propagande à Ouagadougou.
Au Mali, la santé de Boiré Fili Sissoko se dégrade de façon alarmante.
L'ancienne ministre de l'économie et des finances est derrière les barreaux depuis plus de 3 ans et demi. Elle est toujours poursuivie dans le cadre de l'affaire dite de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés. Boiré Fili Sissoko clame toujours son innocence. Et hier, son avocat a déposé une nouvelle demande de libération provisoire auprès de la Cour suprême, cette fois pour raison médicale. Ses proches craignent le pire, David Baché.
Boiré Fili Sissoko est extrêmement fatigué et mal en point. Selon son entourage, l'ex-ministre qui a près de 70 ans souffre de drépanocytose, de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'arthrose. Emprisonné depuis 3 ans et demi, au-delà de la durée légale d'une détention provisoire, Boiré Fili Sissoko attend que le procès dans lequel elle est poursuivie pour corruption et atteinte aux biens publics reprenne. L'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés défraie la chronique depuis 2014. Une dizaine de personnalités sont mises en cause. Le procès avait été suspendu en octobre pour permettre de nouvelles auditions de témoins. Les anciens premiers ministres Moussa Mara et Oumar Tatamli, ainsi que l'ex-ministre délégué au budget Madani Touré, ont été entendus ces dernières semaines. Aucune date n'a encore été fixée pour la reprise du procès. Boiré Fili Sissoko a toujours clamé son innocence et réclamé d'être jugé. Il y a tout juste 3 ans, c'est dans le cadre de cette même procédure que l'ancien premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga était mort en détention. Les autorités maliennes de transition avaient refusé son évacuation sanitaire en dépit des recommandations médicales.
En Côte d'Ivoire, ce lundi s'est ouvert le procès de l'ancien aide de camp de Guillaume Soro au tribunal d'Abidjan. Une quinzaine de personnes poursuivies, dont le commandant Abdoulaye Fofana, pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à l'ordre public. RFI Abidjan, Binta Diagne.
Le commandant Abdoulaye Fofana a rejoint la rébellion en 2002. Il devient l'aide de camp de Guillaume Soro lorsque ce dernier est premier ministre puis président de l'Assemblée nationale. En 2019, une mesure de reversement des militaires détachés auprès de Guillaume Soro est enclenchée. Abdoulaye Fofana est radié car il n'a jamais rejoint son unité, à savoir la garde présidentielle. Démarre ensuite une période d'exil. Abdoulaye Fofana s'installe en France. Au bout de quelques mois, il décide de revenir au pays. La justice l'accuse de vouloir enlever le président de la République pour renverser le gouvernement et instaurer un organe de transition. Direction d'abord le Burkina, puis Abdoulaye Fofana entre en Côte d'Ivoire par la route à Ouangoloudougou, où il rencontre un de ses présumés complices chargé de neutraliser mystiquement certaines personnalités politiques et administrative. Arrêté en juin 2022 par la gendarmerie, Abdoulaye Fofana rejette ces accusations. Le 14 avril prochain, à la reprise des débats, il pourra donner sa version des faits. Il est par ailleurs inculpé dans une seconde affaire qui se tient en parallèle. Ce militaire à la retraite est accusé d'actes terroristes et de complot contre l'autorité de l'État dans le cadre des violences électorales de 2020. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
En France, c'est une date qui fait toujours autant polémique.
Et cette date, Andréane, c'est le 7 avril, jour annoncé du concert Solidarité Congo, qui est également le 7 avril, la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Les organisateurs de l'événement avaient un temps annoncé son report avant finalement de le maintenir. Une initiative vivement critiquée à Kigali, encore plus avec la présence de Gims, l'artiste accusé d'avoir tenu des propos appelant à la haine. Les organisateurs, eux, assurent que le choix de la date est tout sauf politique. Guillaume Thibault.
Sérénité, c'est le mot d'ordre affiché malgré la polémique née du choix du 7 avril, malgré les pressions des autorités rwandaises et françaises qui souhaitaient un report. Les organisateurs de Solidarité Congo, représentés ici par Elvis Adidjema, le directeur de Sony Music Afrique francophone, plaident la bonne foi et l'impossibilité de décaler.
Effectivement, c'est malencontreux. On était tous d'accord sur le fait que c'était pas du tout volontaire et que l'initiative reste celle qu'elle est, c'est-à-dire d'aider des personnes dans le besoin, des populations dans le besoin. D'autant plus qu'on est ouvert au dialogue avec les associations et on n'a pas de problème particulier par rapport aux revendications de celles-ci.
La principale revendication des mouvements, comme l'association des Rwandais de France, représentée par l'avocat maître Gisagara, c'était justement le report de Solidarité Congo, la reconduction de la date du 7 avril, est donc perçue comme une provocation.
Soutenir les personnes qui sont victimes de cette guerre, c'est une cause noble que nous partageons, mais non à l'instrumentalisation pour en faire une tribune pour inciter à la haine et à la violence contre les Tutsis. Ça, nous ne l'accepterons jamais.
L'association des Rwandais de France, qui craint des troubles à l'ordre public, appelle la préfecture de Paris à interdire l'événement et estime que le concert Solidarité Congo est un concert de la honte.
Guillaume Thibault, sachez qu'en République démocratique du Congo, c'est hier que les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont débuté. Une initiative largement boycottée par les principaux partis d'opposition. La majorité au pouvoir était la première à être entendue. C'est l'une des principales annonces faites par le président américain Donald Trump depuis son retour au pouvoir à Washington. Peut-être l'une des plus inquiétantes. Les coupes budgétaires dans l'aide internationale des États-Unis, alors que le pays pointait à la tête du classement mondial. Depuis, les inquiétudes sont nombreuses, mais si cette suspension devenait finalement un tournant pour les pays africains, ils sont nombreux, ces gouvernements, à avoir pris les devants. On vous parle ce matin de la lutte contre le sida. Illustration en Afrique du Sud qui finance elle-même une large part de sa réponse. 6 millions de personnes sous traitement sur 8 millions vivantes avec le VIH. Le Botswana, par exemple, assure 66% de sa réponse, le Ghana 57%. Alors pour la chef d'ONU Sida, Winnie Byanyima, cette crise budgétaire pourrait accélérer une vraie transition vers l'autonomie financière.
Beaucoup de pays sont engagés depuis un certain temps sous la voie de l'autofinancement de la riposte au VIH. La suspension de l'aide américaine doit servir de signal d'alarme. Ce pays cherche activement des solutions. En Ouganda, par exemple, lors du dernier congrès du parti au pouvoir, le président s'est engagé à combler un vide de plus de 370 millions de dollars laissés par le retrait américain. Et je ne vois pas ça comme un manque de volonté. Il faut simplement regarder les besoins, les ressources disponibles et le poids de la dette. Ce pays ne reste pas les bras croisés à attendre d'être aidé. Ils se battent vraiment. Quand le programme américain PEPFAR reviendra, parce qu'il reviendra, il devra travailler avec ONU SIDA et le gouvernement et la société civile pour accompagner des véritables transitions vers l'autofinancement. C'est une étape cruciale pour garantir une réponse durable à long terme.
Winnie Byanyima, la chef d'ONU SIDA.
Le sport et du football pour refermer ce journal.
Hier, on jouait sur le continent la suite de la 6e des 10 journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. 8 rencontres au programme. Le Mali tenu en échec face à la Centrafrique. Le Burkina Faso s'impose de buts à 1 en Guinée-Bissau. Victoire du Ghana également. Et de la Côte d'Ivoire, Olivier Pron.
Tout petit, le champion d'Afrique, mais vainqueur à Abidjan de la Gambie, 1-0, un but de Sébastien Haller dès la 15e minute, le deuxième de ses qualifications pour l'attaquant d'Utrecht. 1-0 au quart d'heure de jeu donc, et puis plus rien, ou presque, pour les éléphants. 5 frappes dans tout le match, 3 cadrés seulement. Les scorpions gambiens, bien plus entreprenants, notamment en fin de rencontre, sont passés tout près de l'égalisation. Mais l'essentiel est fait pour Emers Faye et ses troupes qui, avec 16 points, repassent d'une longueur devant le Gabon en tête du groupe F. Les autres sélections de cette poule semblent trop loin à 4 journées de la fin pour espérer désormais se mêler à la lutte pour la qualification. Le mondial américain, les Ghanéens peuvent sérieusement commencer à l'envisager. 5e victoire en 6 matchs pour les Black Stars. 3-0 face à Madagascar, qui les recevait à Al Hoceima au Maroc, doublé de Partey, le gunner. 3e but signé Mohamed Koudous. Le Ghana largement en tête du groupe I avec 15 points. Les Comores pourraient revenir à 3 longueurs en cas de victoire ce mardi face au Tchad.
Comores-Tchad, l'un des 15 matchs programmés ce mardi en clôture de cette 6e journée. Autre rencontre prévue aujourd'hui. Sénégal-Togo à 21h TU, Mauritanie-RDC à la même heure, Bénin-Afrique du Sud et Ouganda-Guinée, coup d'envoi 16h temps universel, Andréane.
Merci Nemo en piste et on y revient sur ces infos footballistiques à 8h15.